Et puis si vous avez vos Bibles, nous sommes en Exode chapitre 20 et cette semaine nous sommes en train de considérer les 10 commandements. Alors je vais lire à partir du verset 1 jusqu'à la fin donc de ce deuxième commandement qui termine au verset 6. Écoutons donc la parole de Dieu. Exode chapitre 20. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » Et maintenant le deuxième commandement, verset 4. « Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elles et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. » Alors c'est clair en lisant ces commandements que ces deux premiers sont très liés. Nous pouvons même dire que ce qui est dit là à la fin du verset 5 et au verset 6, un Dieu qui punit et un Dieu qui fait miséricorde, est lié aux deux premiers commandements, si vous voulez. C'est un peu ce qui suit ces deux premiers commandements et les place à part. Ils ont la prééminence par rapport à tous les autres commandements. Et ils sont souvent utilisés l'un pour l'autre. Par exemple, dans la Bible, souvent Dieu va parler de l'idolâtrie, deuxième commandement, comme pour parler des gens qui ont pris un autre Dieu devant sa face, qui est le premier commandement. Donc les deux commandements se remplacent souvent même dans la Bible. Parce que forcément, pratiquer l'idolâtrie, c'est avoir un autre Dieu. On ne peut pas transgresser un sans transgresser l'autre. Mais il y a quand même une différence très subtile entre les deux. Entre le premier, tu n'auras pas d'autre Dieu, et le deuxième, tu ne te feras point d'image ou d'idole. Parce que le premier commandement nous parle de qui nous adorons, Dieu seul. Et ce deuxième commandement va ajouter quelque chose en nous parlant de comment nous adorons. Le premier commandement indiquait au peuple d'Israël qu'il devait adorer qui, c'est-à-dire celui qu'il devait adorer exclusivement. Mais le second commandement l'informait de la manière dont il devait adorer le seul vrai Dieu. Et ceci est très important. Vous n'êtes pas loin. Cherchez en Exode chapitre 32. Exode chapitre 32, regardez, pardon, à partir du verset 4, Exode 32, verset 4, nous sommes que quelques jours après, et nous avons cette terrible histoire, cette triste histoire de Moïse qui est parti sur la montagne, et d'Aaron qui va faire un veau d'or, et donc c'est Aaron, verset 4, reçu de leurs mains, il jeta l'or dans un meule et il fit un veau en métal fondu et ils dirent, Israël, voici ton Dieu. C'est le mot Elohim. Elohim que nous avons vu au début des commandements, qui est répété plusieurs fois en fait dans les commandements. C'est Elohim et il va l'identifier ici. Qui t'a fait sortir du pays d'Égypte? Vous voyez, c'est exactement ce que Dieu a dit au début d'Exode 20. Lorsque Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui et s'écria, « Demain, il y aura une fête au l'honneur de qui ?» De Yahvé, l'autre nom qu'a utilisé Dieu, le nom de l'alliance de Dieu. On va faire une fête en l'honneur de Yahvé. Et le lendemain, verset 6, ils se levèrent de bon matin et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Alors si vous notez bien, ce sont des sacrifices prescrits par la loi. Donc ils parlent d'Élohim, ils parlent de Yahvé, ils offrent des sacrifices prescrits par la loi, mais ils le font à une idole. Donc ils essayent d'adorer le seul vrai Dieu, si on puisse le dire ainsi, mais avec l'aide d'une idole. Donc c'est pas seulement le qui est important, c'est le comment de notre adoration. Adorer Dieu d'une façon qui n'est pas prescrite par la loi et selon lui, l'idolâtrie. Alors, on peut se poser la question, est-ce que ce deuxième commandement interdit tout art religieux? Et la réponse est assez claire, même dans ce même livre d'Exode. Dieu a dit à Moïse de construire le tabernacle, selon le modèle que Dieu lui avait montré sur la montagne. C'est-à-dire sur le modèle que Dieu lui-même a créé. Et dans ce tabernacle, il y avait des chérubins, il y avait des anges qui étaient dessinés en art et aussi sculptés dans le lieu très saint. Et donc, nous savons aussi, si vous lisez par rapport au temple, que c'était encore plus orné que le tabernacle. Donc, nous voyons que les images en elles-mêmes ne sont pas interdites. Jésus parle de Moïse et du serpent de bronze qu'il a élevé dans le désert et il utilise cette œuvre d'art comme une illustration de sa future crucifixion. Mais je crois que Lévitique, chapitre 26, verset 1 nous aide. Je vais vous lire ce verset, Lévitique 26, verset 1. « Vous ne ferez point d'idole, vous ne vous élèverez ni image taillée, ni statue, et vous ne placerez dans votre pays aucune pierre ornée de figure pour vous prosterner devant elle, car je suis l'Éternel, votre Dieu. » Donc c'était les images, les sculptures, l'art, pour s'en servir, pour adorer, même le seul vrai Dieu. Alors, une deuxième question, même si l'art en tel n'est pas interdit, est-ce qu'il s'agit d'une condamnation uniquement des cultes des idoles? Et on peut dire, bon, tant que je ne me prosterne pas devant une idole, c'est bon, j'obéis à ce commandement. Je crois qu'il est évident que ça signifie plus que cela. Ça traite du culte de Dieu par tous les moyens inadéquats. Un moyen inadéquat d'adorer Dieu devient une idole que nous mettons à la place de Dieu. Et je crois que nous pouvons avoir même des images, des idoles mentales dans la tête, des images, des pensées de Dieu qui ne sont pas correctes et justes selon la révélation biblique. C'est une condamnation surtout, je crois, de cette pensée, de cette attitude qui veut toujours dire, ça a toujours été dans l'homme, voir, c'est croire. Voir, c'est croire. C'est-à-dire, j'ai besoin du visuel, d'image, pour pouvoir adorer un Dieu invisible. Des gens qui disent qu'il faut voir de grands exploits pour croire à Dieu. Des gens qui disent qu'il faut voir des visions, il faut faire des miracles. Et vous savez que même de nos jours, il y a beaucoup de soi-disant prédicateurs et d'églises qui essayent de recréer ces miracles et ces prodiges visuels pour aider les gens à adorer un Dieu invisible. L'adoration de Dieu est donc établie et maintenue par le visible. C'est ça, utiliser donc une idole. Mais il faut savoir que la Bible dit, je cite Romains 10, verset 17, que la foi vient de ce qu'on... Quoi, vous savez? Il ne dit pas de ce qu'on voit. La foi vient, la vraie foi en Christ, vient de ce qu'on entend. Ah, mais on peut entendre des choses de un peu partout. Mais il dit, la vraie foi devient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend, qui produit la foi, vient de la parole de Christ. C'est la parole de Christ qui seule suscite la foi dans le cœur humain, avec, bien sûr, l'application du Saint-Esprit. Et les oreilles, si vous regardez, si vous écoutez vos oreilles, elles sont des organes de réception, pas d'accomplissement. Hein, on peut avoir des mains douées dans le jardin ou pour sculpter, et on peut faire des choses avec nos mains, mais on ne va pas au musée, on ne regarde pas souvent des choses faites avec des oreilles. Les oreilles ne produisent pas. Ce sont des organes qui reçoivent, mais qui ne peuvent pas produire des choses. Et c'est pourquoi la transmission de la grâce de Dieu ne peut être séparée de son contenu. Si c'est par la grâce seule que nous sommes sauvés, le salut ou le message du salut doit être délivré par un moyen dans lequel le pécheur est simplement le receveur, si on peut dire comme ça, le destinataire de ces nouvelles. Il ne va pas élaborer quelque chose avec ses mains, il va simplement entendre quelque chose avec ses oreilles qui va après pénétrer dans son cœur. C'est une bonne nouvelle que nous recevons, pas que nous fabriquons ou que nous changeons ou modifions avec les mains. Et donc 1 Thessaloniciens 2, 13 dit, c'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Voyez, c'est une parole qui agit en ceux qui croient. C'est comme ça que la parole de Dieu agit. Elle passe par les oreilles, elle va droit au cœur. Et ce qui est très dangereux, même de nos jours, c'est que l'adoration est souvent comprise comme une expérience personnelle. Quelque chose que je fais ou à quoi je participe avant tout, plutôt que d'une rencontre avec un Dieu qui nous parle dans sa parole. Qu'est-ce que Jésus a dit en Jean 10, 27? Mes brebis entendent ma voix. Dieu veut que nous l'écoutions. C'est son grand désir. Et chaque âge de l'histoire, même de l'Église chrétienne, nous voyons qu'elle a été tentée, l'Église, d'utiliser des aides visuelles et physiques pour inspirer et maintenir l'adoration du seul vrai Dieu. Une des premières aides utilisées était les vêtements spéciaux. Et donc les pasteurs et les évêques et les autres hommes religieux commençaient à porter des robes distinctes et ces robes les mettaient à part et aidaient, soi-disant, les gens dans l'écoute de la parole de Dieu. Et puis, nous avons eu assez rapidement les images et les statues empruntées des Grecs et des païens, mais qui ont été infiltrées après dans le christianisme, encore pour aider les gens, probablement des gens très sincères au début, aider les gens à adorer Dieu, à louer Dieu. Et ils essaient donc de louer Dieu à travers ces idoles et à travers ces images. Et puis, nous avons eu des lieux grandioses, les cathédrales, où, vous savez, à l'époque du Moyen-Âge, la cathédrale était l'édifice le plus haut, le plus grand, le plus majestueux qu'avait jamais vu un homme toute sa vie. La première chose qu'on voyait en approchant d'une ville était l'église, c'était la cathédrale. Et puis, imaginez le fermier qui va en ville, très rarement, il entre dans cette cathédrale et l'atmosphère est impressionnante. Et il se sent poussé à adorer, c'est ce qu'il croit en tout cas. Dieu, c'était fait pour ça, comme une aide à l'adoration. Chaque village de France a sa cathédrale encore aujourd'hui. Il a toujours eu donc chez l'homme une véritable soif d'adorer ce qui est plus grand que lui. C'est pour ça que nous avons les stars encore dans la musique ou dans le cinéma. Nous avons une soif d'adorer quelque chose qui est plus grand que nous. Mais l'adoration de Dieu est spirituelle. Et la vraie adoration ne peut être faite que par des hommes spirituels. Et donc l'homme a constamment essayé de recréer cet émerveillement et cette grandeur, ce sentiment de grandeur en utilisant donc des moyens physiques. Et aujourd'hui, nous n'avons pas dans nos milieux des cathédrales souvent, mais vous pouvez entrer dans une église évangélique et vivre une expérience de culte qui est encore plus intense qu'une personne du Moyen-Âge entrant dans une cathédrale aurait jamais connue. On offre aux gens des expériences très intenses. Et cette expérience est créée souvent par le visuel. Il y a l'utilisation des lumières et des spots et des projecteurs. Il y a des chorales parfois qui dansent. Il y a une scène pleine d'activités. Nos yeux sont captivés par ce qui est devant nous. Et puis cette expérience aussi est recréée par l'audition, par le son. Nous avons des appareils électroniques aujourd'hui complexes qui, avec des enceintes puissantes, peuvent recréer une expérience auditive que l'homme d'il y a un siècle n'aurait jamais ressenti une seule fois dans sa vie. Ce sont des expériences puissantes que nous avons. Et une musique forte et puissante, et ça nous touche même dans le corps et le physique. Nous donnons aux gens donc une onde de choc émotionnel. Nous leur donnons un sursaut émotionnel et nous leur disons, sans le dire, « Vous avez besoin de nous pour vous aider à adorer Dieu. Vous avez besoin de nous et ce que nous pouvons recréer dans cette salle et ce spectacle pour vous aider d'adorer le seul vrai Dieu. » Et il y a des milliers qui adore Dieu avec l'aide des idoles d'images et d'auditions. Il s'appuie sur ces choses pour adorer le seul vrai Dieu. Mais qu'est-ce que Jésus a dit à la femme samaritaine? Vous connaissez peut-être ce récit en Jean chapitre 4. Il parle du verset 23 et 24. Et il parle à la femme, il dit, mais l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là, pas ailleurs, ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit. Il y a un lien ici, je suis convaincu, au deuxième commandement. Dieu est un esprit et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Alors qu'est-ce que Jésus veut dire quand il dit « il faut qu'on adore Dieu en esprit » Je ne pense pas qu'il parle du Saint-Esprit ici, quoique c'est bien sûr indispensable. Et je ne pense pas qu'il parle non plus du fait qu'il faut être sincère, il fallait toujours être sincère. Mais la question que venait demander la femme samaritaine, c'est où est-ce qu'il faut adorer? Est-ce que c'est à Jérusalem ou est-ce que c'est ici, comme disent les Samaritains? Et Jésus lui donne la réponse. Et il dit non, ce n'est ni là, ni ici, c'est en esprit. Vous voyez, c'est le lieu où nous adorons le Seigneur. Jésus donne, si vous voulez, les deux choses qui sont non négociables ici. Le comment, c'est en vérité. Le où, c'est en esprit. Dans l'esprit des hommes. C'est-à-dire, la géographie n'est plus un problème. Dieu veut que nous adorons dans nos corps, dans nos esprits, qui sont le temple maintenant du Saint-Esprit. Le lieu véritable du culte se trouve dans l'esprit des hommes. Et ce qui est tout à fait conforme au fait que Dieu lui-même est esprit. Et donc, quand je parle de ce deuxième commandement, c'est vraiment quelque chose de très subtil. Parce que c'est une question du cœur. Il ne suffit pas, mes amis, de dire, bon, on n'aura plus d'idoles, on ne va plus avoir de cathédrales, on ne va plus avoir d'images. Parce qu'on peut adorer Dieu dans une cathédrale. Les images, comme on a vu dans le tabernacle et le temple, ne sont pas forcément mauvaises en soi. Non, Dieu peut se servir des images, de la musique, des endroits spécifiques, etc. Mais l'adoration de Dieu est avant tout une affaire du cœur. Du cœur qui va vers Dieu qui est esprit et qui reçoit ses paroles. Et donc je veux terminer avec ces versets dans le psaume 106. Parce que je pense que ça nous montre que la chose devient une idole lorsqu'on se sert de la chose comme moyen de recréer ce sentiment d'adoration à la perte de la vérité et au remplacement de Dieu. C'est Prisca qui m'a envoyé ces versets. Donc je remercie Tati pour le fait qu'elle m'a fait penser à ce psaume. Le psaume 106, je commence au verset 19. Il dit « Ils firent un veau en Horeb. Ils se prosternèrent devant une image de métal fondu. » Donc nous voyons bien le contexte. Hein. Ils vont faire un veau, ils vont adorer le veau, l'idole. Mais qu'est-ce qui se passe? Verset 20 nous l'explique. Ils échangèrent leur gloire contre la figure d'un bœuf qui mange l'herbe. Ils échangèrent leur gloire. Et je vous encourage dans votre Bible de mettre le G en majuscule. Dans plusieurs traductions françaises, c'est déjà comme ça. C'est un grand G. Ils échangèrent leur gloire, c'est-à-dire une référence à Dieu. Hein, la Bible de Sommer dit « Ils ont troqué Dieu, le sujet de leur gloire, contre un ruminant qui brute de l'herbe. » Et ça nous renvoie à Romains 1, je ne vais pas le citer, où ils ont changé aussi la gloire de Dieu pour adorer d'autres choses. Et verset 21 nous dit ce qui s'est passé. « Ils oublièrent Dieu, leur sauveur, qui avait fait de grandes choses en Égypte. » Donc notez ces deux mots. Échanger au verset 20 et oublier au verset 21. C'est ça l'enjeu de l'idolâtrie. On peut dire qu'on adore Yahvé, le seul vrai Dieu, qu'on adore Christ. Mais le danger, c'est quand nous échangeons Dieu pour autre chose et puis quand nous l'oublions. Ce n'est plus Dieu qui est adoré, mais c'est la chose ou c'est l'expérience. Je vais à l'église pour l'expérience que je reçois. Le culte devient une adoration. Dieu est donc caché parce qu'il est remplacé. Ce qui prend le devant de la scène n'est plus Dieu et sa parole, mais autre chose. Et donc Dieu est échangé. Et puis Dieu est oublié. Et on peut faire comme les enfants d'Israël, on peut après se lever comme ils ont fait et danser, ils ont mangé puis se sont levés pour jouer et danser. Ils étaient heureux, ils étaient satisfaits de l'expérience d'adoration qu'ils ont eue, mais Dieu sur la montagne n'était pas heureux avec ce qu'ils ont fait. parce qu'il venait, sans même le réaliser, de transgresser la loi de Dieu. Alors j'espère que vous voyez l'importance d'adorer le seul vrai Dieu et puis de ne pas faire d'image, de ne pas remplacer Dieu et sa parole par autre chose, même si je pense qu'ils deviennent une aide dans mon adoration du seul vrai Dieu. Prions le Seigneur. Ô Seigneur, ma langue est faible et ma capacité de communiquer est très, très limitée, je le sens. Mais tes lois sont véritables et justes. Et c'est à nous de donner tout notre cœur à nous soumettre et à les obéir. Et nous prions donc que par ton esprit, tu révèles à chacun de nous les idoles de nos cœurs pour que nous puissions les enlever et adorer toi seul. Et nous te remercions pour ta grâce envers nous. Amen. Merci pour votre attention et que Dieu vous bénisse.